je t'aime et je donne ma vie, me sacrifie, puis je meurs à ta place pour te donner ma grâce, pour que tu m'as sauvé. Verset 18, vous y êtes? Genèse chapitre 2, verset 18. Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez sur Internet. Je fais la lecture. L'Éternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Si la sœur Micheline écoute ce message, c'est un petit coucou. Parce que cet après-midi, c'est une sœur qui m'écrit de temps en temps sur le net et qui me pose des questions. J'aime bien, parce qu'elle pose des questions qui ne sont pas courantes. Et ça fait plaisir de pouvoir soulever ces choses. Et donc elle me disait, mais est-ce que ça a l'air de dire que Dieu était à constater, tiens, il n'est pas content quand il est tout seul, ce n'est pas bien pour lui d'être tout seul. Est-ce que Dieu ne savait pas que... on n'était pas bien quand on est tout seul, il a fallu qu'il le constate, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Enfin voilà, c'est des questions que moi j'aime bien. Mais bon, ce soir on va parler d'autres choses. Disons que ce verset-là, je me suis appuyé sur ce verset-là, parce que j'ai réfléchi un peu cet après-midi, et puis voilà, en priant, puis comme j'avais ce message à préparer, eh ben, c'est là-dessus que j'ai médité. Pourquoi Jésus a-t-il voulu, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec Adam et Ève? Eh bien, vous allez voir. Pourquoi Jésus a-t-il voulu que son Église soit une communauté de vie? Maintenant, on dit la communauté du point du jour, la communauté des hommes d'affaires chrétiens. Ce n'est pas des communautés, c'est des assemblées. Ce sont des gens qui se mettent ensemble un moment pour quelque chose, qui ont un but, et puis après, chacun rentre chez soi, puis personne se... Enfin, ils se connaissent plus ou moins, mais bon, ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas une communauté comme c'était dans les... dans l'Église primitive, où ils vendaient tout, ils mettaient en commun, ils partageaient, voilà, comme ce que nous avons fait, nous. Donc, pourquoi est-ce qu'il a voulu que ça soit un lieu de vie, où tous sont ensemble, et ayant un seul cœur, une seule âme, persévérant dans l'enseignement, hein, dans l'enseignement des apôtres, et puis aussi dans la fraction du pain, et toutes ces choses-là, ils prenaient leur repas ensemble. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'il soit un seul cœur, une seule âme? Pourquoi? Ben, il a voulu ainsi, parce que Dieu n'aime pas la solitude. Avant d'avoir créé quelque chose, il était seul. On dit toujours il est unique, oui, il est unique. C'est-à-dire il est seul, pas de vis-à-vis, et il nous a créé pour avoir un vis-à-vis. En fait, le summum, l'apothéose de cette chose, et le mot juste, c'est apothéose, c'est qu'il veut une épouse, une déesse avec lui, il veut une épouse. Et quand il a vu le premier homme qu'il avait créé, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça ne veut pas dire qu'il a constaté avec stupeur « oh là 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 là, mais qu'ai-je fait ? J'ai créé un être qui n'est pas content quand il est tout seul. » Non, 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 il sait tout. Simplement, quand il dit ça, c'est pour ponctuer, si vous voulez, son œuvre. Voilà, j'ai créé, maintenant, on va continuer, je continue. Et il soliloque, si vous voulez, Dieu, là. Hein, bien que, quoique. Donc Dieu parle pour créer, et il crée dans un certain ordre. Par exemple, il n'a pas créé Adam avant d'avoir créé la terre, il n'a pas créé la terre avant d'avoir créé Il y a de l'ordre, n'est-ce pas? Il y a une continuation dans les choses, une continuité dans les choses que Dieu fait. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, Dieu forme les animaux. C'est là qu'il commence à faire les animaux. Et alors, il les fait venir vers Adam pour voir. C'est écrit, hein, il les fait venir pour voir. Pour voir quoi? Eh bien, il voulait voir comment Adam nommerait les animaux. Est-ce que Dieu ne savait pas comment il allait les nommer? Alors, c'est aussi encore une question. Bien sûr qu'on peut se poser la question, c'est permis. Et on peut répondre, ah ben non, Dieu ne savait pas comment il allait les nommer. Ou alors on peut dire, oui, Dieu savait tout, mais il voulait voir la chose, parce qu'il n'avait jamais vu ça. C'est une chose qui manquait à Dieu, ça. Il n'avait jamais vu ça. Quelque chose qui est extérieur à lui, tout en étant quand même en lui, parce que où est-ce qu'il peut y avoir une place en dehors de Dieu? Ça n'existe pas. Dieu remplit tout en tous. Mais vous voulez voir ça. Et Adam, donc, a vu les animaux, il a donné un nom à chacun. D'ailleurs, Bob Dylan avait fait une très jolie chanson là-dessus, que Hugo Frey a repris, Dieu donne un nom aux animaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, elle est très jolie. Et Adam, donc, donne un nom à chaque animal, mais nous dit la Bible, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Il a vu la guenon, il dit non, c'est pas tout à fait mon genre, c'est pas ça. L'éléphant, il dit non, là, c'est pas possible. Il a vu une girafe, il dit non, c'est pas. Mais donc, il n'y avait aucun de ces animaux était semblable à lui. Mais donner un nom. Pourquoi Dieu a voulu faire ça? Dieu avait créé un être à sa ressemblance. À lui-même. Il avait créé un être qui lui ressemblait et il lui avait donné un nom. Dans Genèse 5, 2, il l'appelle homme ou Adam si vous voulez. Mais savez-vous ce que ça signifie? Ça signifie le glébeux. Bonjour les glébeux! On est tiré de la glèbe, on est tiré de la terre. Hein? On est tiré de la terre. Et notre nom, c'est notre identité. On est les tirés de la terre. On est les glébeux. Premier glébeux. L'ange de l'Éternel qui marchait avec Moïse, ça c'était beaucoup plus tard, c'est El Shaddai, eh bien c'était Dieu lui-même. Et le Seigneur dit à Moïse, il va marcher avec toi, mais fais très attention. Il lui dit carrément, les termes c'est, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, car mon nom est en lui, dans l'ange de l'Éternel. Mon nom est en lui, ça veut dire je suis, et il ne faut pas faire n'importe quoi dans ma présence. Le nom, c'est donc l'identité. Dieu a un nom, maintenant ce nom a été révélé, le nom de Dieu a été révélé, c'est Jésus, il est venu pour révéler le nom du Père. Il a dit, je leur ai révélé ton nom. Alors, bon, ici nous savons, mais si je pose la question à des pasteurs, je dis, alors voilà, il a révélé le nom du Père. C'est quoi le nom du Père? El Shaddai? Non, El Shaddai c'était déjà avant, on disait El Shaddai. Adonai? Non, non, on disait avant. Le nom que le Jésus a révélé, c'est quoi? Mais ils n'en savent rien. Donc, vous voyez, Trinité peut-être. Peut-être. Le nom, c'est l'identité. Dieu a un nom et sa créature, ce que nous sommes, ça a un nom. On est des glébeux. Vous vous tournez vers votre voisin et vous dites bonjour glébeux. Ça fait plaisir. Voilà, c'est pas un très beau mot, hein, glébeux. Mais bon, et le glébeux constatait que les veaux, les vaches et les cochons ne lui ressemblaient pas. Le glébeux a eu là une conscience de quelque chose. Il a eu conscience de quelque chose. Sa conscience s'est ouverte. Sa connaissance a commencé. Il a appris. C'est ce que Dieu veut toujours, c'est qu'on apprenne les choses. Personne n'est comme moi. Il a appris ça. Personne n'est comme moi. Je n'ai pas la même identité que les animaux. Pourtant, ils sont tirés de la terre, eux aussi, c'est des glébeux, en quelque sorte. Mais on ne se ressemble pas. Ça ne va pas. Je n'ai pas la même identité non plus que mon créateur, bien que je lui ressemble, mais c'est pas ça non plus quand même. Parce que Adam, il voyait Dieu, Adam. Il le voyait. Dieu se promenait dans le jardin avec lui, il discutait le coup, hein, et puis il parlait avec le glébeux, il voyait Dieu. Bon, la Bible dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ben, lui, il voyait Dieu, il mourait pas. Hein. C'est arrivé encore d'autres fois. Hein. Chaque fois que El Shaddai se présente, eh bien, il se présente sous la forme qu'on peut voir. Voilà. Alors, Dieu créa un être semblable à lui, semblable donc à Dieu, semblable et semblable au glébeux, c'est-à-dire à Adam. Il a créé donc un être, un autre être, C'était Ève, et voilà donc ce glébeux n'était plus tout seul, il y avait sa Ève avec lui. Ève était semblable aussi à Dieu, semblable à son Adam, à son glébeux. Elle était là, mais c'était deux identités pareilles, si vous voulez, deux glébeux. Et tant que Ève n'était pas là, ce glébeux était seul, même en présence de Dieu. Même si on est créé à l'image de Dieu, on est seul. Même si on est dans la présence de Dieu. Il y en a, ils sont contents avec la présence d'un chien, d'un chat, d'un poisson rouge. Et puis il y en a qui disent, non, je ne suis pas tout seul, j'ai le Seigneur avec moi. Ah. Même en présence de Dieu, il était seul. Mais en présence de Dieu qui lui ressemblait, il était seul. Et il n'était pas bon. C'était pas bon pour lui. Alors Dieu a fait tout ça pour que le glébeux prenne conscience que rien n'est comme lui. Ni les animaux qui sont pourtant tirés de la terre comme lui, ni même Dieu. Même s'il était créé à son image, à sa ressemblance, c'est quand même pas pareil. Et l'histoire se déroule, et nous voilà arrivés au moment où Dieu s'est fait chair, comme nous, pour venir sauver les siens, et donc se choisir une épouse, comme je vous disais tout à l'heure. Son épouse, elle se trouve au sein de l'Église, de la véritable Église, elle se trouve là, cachée. Et selon son plan, il a voulu qu'aucun membre de son Église ne soit seul. Voilà pourquoi il a créé son Église sous la forme d'une communauté de vie, où tous sont ensemble, où il n'y a qu'un seul cœur, une seule âme. En Christ, nous sommes semblables comme Adam et Ève l'étaient avant la chute. Pas question même de mariage ou de célibataire ou de machin. C'est le fait de ne pas être seul, c'est d'être en compagnie d'autres glébeux qui sont comme nous. Étant nés de nouveau, nous ne sommes pas comme les autres. Les autres, c'est le règne animal. C'est ce que la Bible dit. Et nous sommes différents. Et il est bon que nous soyons ensemble, que nous ne soyons pas seuls. Nous sommes semblables à Jésus, qui est la tête de son Église. On trouve ça dans 1 Jean 4, 17, et nous sommes semblables les uns aux autres aussi, en tant que glébeux, en tant qu'être humain, nés de nouveau. Ensemble, nous sommes ensemble pour participer avec enthousiasme, ça veut dire transport divin, à un projet commun, celui de Dieu. Mais attention, il nous faut être sur nos gardes. Dieu a dit à Moïse, prends garde en sa présence, car mon nom est en lui. On dira, ah bon, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de nous comporter comme on veut, n'importe comment, en présence de Dieu, ni en présence des frères et sœurs, parce que ils sont tels qu'il est lui la tête, et son nom est en eux. Le nom de Jésus est dans nos frères et sœurs. Alors, nous ne pouvons pas nous comporter et leur parler, et nous devons prendre garde en leur présence. Faire du mal à un frère, faire du mal à une sœur, humilier un frère, humilier une sœur, c'est faire mal à Jésus. Faire du bien à un frère, faire du bien à une sœur, c'est faire du bien à Jésus. C'est pas moi qui l'invente. Jésus dit, ce que vous faites au plus petit de la communauté, je rajoute le mot communauté, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites, parce que le nom de Jésus est en lui, dans ce petit que vous méprisez, dans ce petit-là, dans celui que vous ne trouvez pas efficace, dans le plus lent, dans le moins doué, dans le plus simple, dans le moins ceci, dans le moins cela, prends garde, parce que le nom de Dieu est en lui. Oh! Et si vous lisez bien le texte, dans Exode où c'est écrit, le texte dit, et si tu ne prends pas garde, je ne pardonnerai pas. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Chacun a le nom de Jésus en lui. Alors, Dieu nous avertit. Il sait bien que les associations ne sont jamais exemptes de difficultés. Il le sait. Hein? Aussitôt que Ève est apparue, il y a eu une association et ça a commencé déjà à aller mal, à avoir des problèmes. Et c'est la même chose dans l'Église. Cependant, mes frères et sœurs, Il faut qu'on se souvienne, il vaut mieux avoir des problèmes ensemble que d'être tout seul parce qu'il n'est pas bon pour le glaibeux d'être seul. Croyez Dieu plutôt que vos sentiments qui vous disent « Oh, c'est difficile, ah, c'est dur, ah, c'est pénible. » Il n'est pas bon pour les glaibeux d'être seul. C'est mieux d'être avec les glaibeux, avec des problèmes de glaibeux, que de ne pas avoir de problème de glaibeux parce qu'on est tout seul. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon pour le glaibeux d'être seul. Alors qu'il dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il n'est pas bon pour les glaibeux de ne pas être un seul cœur, une seule âme. Il n'est pas bon de ne pas être avec ceux qui sont comme lui, à son image, à sa ressemblance, ayant vécu la même chose, cette fameuse nouvelle naissance. Il n'est pas bon pour le glaibeux né de nouveau de ne pas vivre avec des nés de nouveau. Par contre, il est bon pour des glaibeux nés de nouveau de demeurer ensemble parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. N'est-ce pas écrit? Je crois que c'est le psaume 33. Être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pas bon de pas être ensemble. Réunir nos forces qui sont éparses. Hein, quand on est chacun chez soi, nos forces sont éparpillées. Réunir nos forces autour du grand thème fédérateur de Dieu, autour de son grand projet. Le problème, ça n'a pas été de réunir le premier glaibeux avec la deuxième glaibeuse. Ah, ça devient pire encore quand on dit glaibeuse. Ça n'a pas été ça le problème de mettre Adam et Ève ensemble. Ils étaient tout contents au départ, hein? Le problème, ça a été de les maintenir dans la durée. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Une fois passé le cap de ventoux et suis-moi, il faut arriver à maintenir l'unité dans la durée. Maintenir dans la durée le premier amour, maintenir dans la durée un bon état d'esprit, maintenir dans la durée la solidarité, maintenir dans la durée la motivation de chacun. Ouais, mes frères et sœurs. Alors, Jésus a tout fait pour qu'on puisse faire sa volonté. Je vous le disais encore mercredi passé, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout. Maintenant, c'est à nous d'utiliser ce qu'il nous a donné, toutes ces forces qui sont en nous. Premièrement, l'objet de notre rassemblement, il faut s'en souvenir, de notre vie communautaire, il est clairement établi dans la parole de Dieu et il suscite l'enthousiasme de tous. On sait très bien que nous vivons ainsi et que c'est un signe de la fin des temps, que Dieu est en train de restaurer toutes choses et que cela devient à la fin comme c'était au commencement, afin que ceux de la fin puissent être comme ceux du commencement pour partir dans l'enlèvement. C'est ça le but. Voilà pourquoi on vit en communauté. C'est ça le grand objet de notre rassemblement, de notre vie communautaire. C'est d'être prêt, d'être mûr pour partir dans l'enlèvement. Ensuite, il y a les ordonnances qui sont claires dans la parole de Dieu. Il y a l'autorité, premièrement. L'autorité, il y a le berger, le pasteur, et puis ensuite, il y a l'autorité des parents. Par exemple, le pasteur n'a pas le droit. Ce n'est pas à lui d'élever les enfants, c'est aux parents d'élever les enfants, c'est à vous d'élever vos enfants. Ben moi, je suis là en tant que pasteur pour vous dire de temps en temps, attention, pas comme si, attention, ça c'est pas bien, attention, là, là, nini, nana. Mais ce n'est pas à moi de dire, ce n'est pas au pasteur d'élever vos enfants, c'est à vous, c'est vous. D'ailleurs, ils reconnaissent votre autorité parentale, c'est une très bonne chose, c'est une grande réussite de notre communauté. Ils savent qui est papa, qui est maman, et c'est papa et maman qui commandent. Ensuite, il y a les responsables qui sont nommés pour certaines tâches dans la communauté, et on se soumet à ces responsables, on le fait de bon cœur, on a un petit cœur qui lui dit d'ailleurs hein, qu'on sert nos frères, on sert nos sœurs, on le fait avec notre cœur. Et puis ensuite, ben, il y a les services divins. Services divins, c'est-à-dire la prière, la prédication, l'évangélisation, le baptême, la Sainte Cène, baptême pour les morts, lavage des pieds, etc. Toutes ces ordonnances, tous ces services divins que nous pratiquons, que nous faisons, persévérant dans l'enseignement des apôtres. Service divin, l'observance des ordonnances sacrées sont partagées comme, si vous voulez, le ciment qui est capable de souder les membres du corps de Christ. Vous voyez, quand on pose des parpaings, on ne met pas du ciment partout, on les met entre les parpaings pour que c'est donc je dis c'est pour ça que je dis c'est partagé comme le ciment. Il est là, ces services divins sont là pour nous tenir ensemble. Les membres du corps de Christ sont soudés par ce service divin que nous apportons. comme nous sommes je vais dire un troupeau, mais un peuple de sacrificateurs, eh bien nous allons travailler, nous allons officier dans la présence de Dieu, faisant des choses qu'il nous a commandé de faire. Et puis ces services divins, ils ont aussi un but, celui de nous rappeler que nous devons oublier nos différences, nos difficultés, nos rivalités, nos différends. Parce que c'est obligé, quand on est ensemble, ben, ça crée des frictions, ça crée des problèmes. Et bien justement, le pardon qu'on se donne les uns aux autres, le lavage des pieds qui est le symbole de ce pardon qu'on se donne les uns aux autres, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos ancêtres et toutes ces choses-là, ça nous rappelle que c'est ça le plus important. Et ce n'est pas les petites broutilles du chaque jour avec les traits de caractère de chacun qui essayent d'évoluer à leur rythme. Ce n'est pas ça, ça ne doit pas être ça en premier dans notre vie. Vous savez, un jour Jésus se promenait avec ses disciples et il y a une femme qui avait une perte de sang, qui était malade et qui est arrivée par derrière se disant « Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle a touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Jésus s'est arrêté, elle a dit « Quelqu'un m'a touché. » Les disciples ont dit « Mais tout le monde te touche. » Il dit « Oui, mais là, une force est sortie de moi. » Il y a des gens qui vous pompent votre force. Hein, c'était à l'insu de Jésus qu'elle a fait ça. Il y a des gens qui pompent votre force. Parfois, les gens nous touchent d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous contrarier. Ça peut, je ne sais pas toutes les façons que les gens peuvent avoir de vous toucher. Mais il y a une force qui sort de nous et parfois on est épuisé. C'est un peu comme si notre corps physique est là, mais notre corps spirituel, nos forces, ça marche un peu à côté. D'ailleurs, une très bonne expression en français, je ne sais pas si ça se dit dans les autres pays, mais on dit « Oh là là, aujourd'hui, je marche à côté de mes pompes. » Hein, mais c'est vrai, notre esprit n'est pas vraiment dans l'affaire, c'est plus que le physique qui tient, c'est par les nerfs qu'on y arrive encore, et non pas par la force. Il faut, bon, cette force qu'elle sorte de nous, c'est normal, parce que il y a des gens qui ont besoin de votre force, des gens qui n'ont pas votre force et qui ont besoin de votre force, alors, ils n'ont pas la même que vous, ils en ont une autre, mais celle que vous avez, ils en ont besoin, et par moments, vous vous sentez épuisé par les gens. Jésus, eh bien, regardons notre modèle, il n'en a pas voulu à cette femme qui lui a pompé sa force. Il n'en a pas voulu. Pourtant, ça l'a fatigué, hein, une force est sortie de moi, quelque chose qui s'est vidé, là. Eh bien, Jésus ne l'en a pas voulu. Certaines personnes sont un peu comme cette femme, c'est horrible ce que je vais dire, mais je vais prendre une image forte pour que vous compreniez, c'est un peu des vampires, n'est-ce pas? Des vampires. Et alors, ils comptent trop sur votre force, ils se reposent trop sur vous, et puis ça vous épuise, mais il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils sont dans le besoin. Vous rappelez, même Jésus a dit, si quelqu'un vole ta tunique, mais arrête, il ne faut pas leur en vouloir, pardonne, c'est parce qu'il est dans le besoin. Mais il y a des gens qui manquent de force et même qui exagèrent, qui vous pompent vos forces, ne leur en voulez pas parce qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Si tu pompes tes forces, c'est que tu en as. Amen, c'est bon. Aujourd'hui, il faut vous rappeler que vous pouvez peut-être vous trouver dans un temps où vous êtes fort, mais demain, vous serez peut-être le faible. Et alors là, vous aurez besoin de la force des autres. Il faudra vous souvenir que quand vous étiez fort, vous étiez aussi gentil et vous acceptiez, vous étiez compatissant, vous acceptiez qu'on vienne vous pomper vos forces. Alors soyez gentil, soyez compatissant avec les faibles, même si leur faiblesse vous use, parce que c'est vrai que des fois c'est usant. Mais voilà, il faut les aimer, pardonner, être gentil encore et encore, comme Jésus l'était. Jésus, il connaissait le moyen de se ressourcer et il en usait, pour reprendre le même mot, voyez, avec une autre signification, il en usait de ce moyen. Vous le connaissez aussi, ce moyen, aller dans la présence de Dieu. Alors rassemblez vos énergies personnelles, vous en avez des forces personnelles, rassemblez-les, rassemblez tous vos talents personnels pour les mettre en commun avec les autres, vos forces, vos énergies, vos talents, tout ça, c'est pour être mis ensemble, afin de pouvoir faire quelque chose à la gloire de Dieu. Nous devons nous concentrer sur nos objectifs. Nous avons trois grands objectifs. Le premier, c'est apporter l'évangile là où personne ne va. Alain est revenu, et ils sont venus, sa femme Catherine et Michou et moi, on était dans mon bureau hier soir, on a bu une bonne bouteille de notre frère Alamand, un Margot 2005 extraordinaire, un bon cadeau qu'il m'avait fait là. Et on a bu ensemble, et il m'a raconté ce qu'il a vu là-bas en Afrique. Il dit vraiment, ça m'a recentré, je ne me rappelle pas exactement les mots, mais il vous en parlera dimanche, il va vous parler dimanche de ce que Seigneur a fait dans sa vie, les prises de conscience. Et je trouve que c'est vraiment très très bien, c'est magnifique ce qu'il a vécu là-bas. Et il faut nous rappeler de nos objectifs, on en a trois principaux. premièrement, apporter l'évangile là où personne ne va. Beaucoup disent, moi j'étais en Afrique, mais ils vont dans les grandes villes, dans les grandes églises et ils prêchent à les chrétiens. Non, il faut suivre le modèle de Jésus qui allait là où personne n'allait. Le modèle de Paul qui mettait un point d'honneur d'aller là où les autres n'allaient pas. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. On va dans des bleds où il n'y a pas de chrétiens et on prêche l'évangile de Jésus-Christ et on construit des églises. Ça, c'est magnifique. C'est donc le premier objectif. Deuxième objectif, donner la connaissance aux vierges sages, aux vierges folles. Et c'est ce que nous faisons par l'Internet, par les livres, par les enseignements que nous donnons partout. Et ensuite aussi par les gens que nous invitons, comme Pierre Gilbert qui va venir là pour la Pentecôte, apporter une connaissance aux vierges folles et aux vierges sages, afin qu'elles puissent être en ordre quand Jésus reviendra. Et troisième objectif, c'est participer au rachat de nos défunts. Pas seulement de nos ancêtres à nous, mais aussi des autres. Hein, parce qu'il faut commencer par nos familles, c'est la moindre des choses. Jésus dit, celui qui ne s'occupe pas premièrement de sa famille est un renégat. Mais ensuite, nous occupons des autres. Des listes de gens qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile et qui, sur terre et qui l'ont entendu maintenant dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 4, 6. Et alors, comme ils ne peuvent pas se faire baptiser, nous le faisons à leur place, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 29. Donc, c'est nos trois objectifs. Apporter l'évangile, là où personne ne va. Donner la connaissance aux vierges folles, aux vierges sages. Et participer au rachat des défunts. Là aussi, on est, je crois, c'est rare que des gens fassent toutes ces choses-là. C'est rare. Eh bien, nous nous attachons à notre ministère. C'est ça, notre ministère. Ce sont nos objectifs communautaires. C'est nos objectifs. Et tout ce qui a été fait depuis que cette communauté existe, tout ce qui a été fait dans ces trois domaines a été possible grâce à notre unité, mes frères et sœurs, grâce à notre bonne volonté, du travail que nous fournissons, de l'argent que nous mettons, que nous investissons dedans, parce que ça coûte de l'argent. Eh bien, gloire à Dieu et merci les frères et sœurs d'avoir été fidèles jusqu'à ce jour. Mais maintenant, il faut maintenir cela. Il faut maintenir, on est dans la dernière ligne droite, il faut maintenir ça. Et pour maintenir ça, il faut être prévenant. Il ne faut pas laisser pourrir les situations, il faut parler. Ce n'est pas que spirituel, on est aussi des humains, parce que mes frères et sœurs, on a beau être nés de nouveau, on n'est quand même toujours que des glébeux et des glébeuses, hein, c'est-à-dire des êtres de chair, tirés de la terre, c'est-à-dire limités. Et mes frères et sœurs, ce qui nous pousse hors de nos limites terrestres, c'est la communication. Tu me diras, bon, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Mais ça, c'est tellement évident. Mais c'est la communication. Dieu veut la communication. Voilà pourquoi on s'adresse à lui. Voilà pourquoi il nous parle. Maintenant, si vous ne l'entendez pas, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que vous ne savez pas écouter. Il faut que vous appreniez à écouter. Il parle. Et nous sommes à son image. C'est-à-dire que nous aimons aussi communiquer. Et c'est un moyen pour nous d'entretenir, de maintenir cette unité. C'est de communiquer. Nous avons besoin de communication entre nous. Peut-être que vous n'écoutez pas quand on parle. Peut-être vous parlez, vous n'entendez pas que les autres parlent. Peut-être vous ne parlez pas et vous ne faites que d'écouter. Il y a quelque chose qui coince. Il y a un canal dans l'énergie, comme diraient les New Age, qui est bouché. Il faut rétablir le circuit de l'énergie. C'est-à-dire communiquer, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi s'exprimer. On a besoin de communiquer entre nous, de s'adresser les uns aux autres, à parler selon la vérité, dans l'amour. La Bible en rajoute « dans l'amour » parce que Dieu sait très bien qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment tellement dire la vérité, mais d'une façon un peu vacharde. Alors, ce n'est pas comme ça, c'est dans l'amour, pour construire, en prenant toujours garde que en chacun se trouve le nom de Dieu. Prenez garde parce que en lui, en elle, réside mon nom. J'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu étonné, parce que je me rappelle quand il y a des années en arrière, le portable est sorti, quand on allait dans les hôpitaux, on nous disait « faut arrêter ça parce que ça dérègle les appareils ». Ah ! On avait le même discours dans les avions, « faut arrêter ça parce que ça dérègle les appareils ». Maintenant, vous allez dans les hôpitaux, tout le monde dans le lit a son portable et téléphone. Vous avez remarqué ? Et les infirmières ne disent pas « attention, ça dérègle les appareils ». C'est parce que ça ne dérègle pas les appareils. Un petit peu peut-être, mais pas au point de faire mourir quelqu'un ou de faire tomber un avion. Non. Si c'est interdit dans l'avion, et que c'est toléré dans les hôpitaux. Vous savez pourquoi? Ben c'est parce que quand on parle au téléphone, on a tendance à hausser le ton. Vous avez remarqué? Vous parlez comme ça avec quelqu'un, d'un coup, téléphone. Allô? Vous avez vu? On parle plus comme ça. Ah! On hausse le ton, on monte d'un ton. On hausse, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais si tout le monde fait ça, c'est horrible. Surtout dans un endroit confiné comme dans un avion, hein? Où on sait qu'on décolle de Paris, on va arriver en Amérique, alors on téléphone, et puis il y en a qui dorment, c'est effrayant, non, c'est pas possible. Dans le train, vous avez déjà voyagé en train? Mais il y en a, ils sont sans gêne, c'est effrayant. Pendant tout le trajet, on entend toute leur vie, on sait tout à leur sujet et tout. Il y a un roman à faire, là. Dans le métro, c'est pareil. Allô? T'es où? Ah bon? Ah non, moi je suis pas là. Je suis dans le métro. Allô? Attends, je t'entends pas bien. Attends, je bouge un peu. Alors, excusez-moi. Pardon, voilà. Là, ça y est, j'ai du réseau. Je t'entends. Tu m'entends? C'est effrayant. Vous avez 10 dans le wagon qui font ça, c'est intenable. Vous avez envie de vous transformer en Dexter, hein, pour ceux qui connaissent là. Hein. Eh bien, quand on est ensemble, dans l'église de Jésus-Christ ou n'importe où, quand on est ensemble, les glébeux, eh bien, plus on est ensemble, plus on devient familier. Et quand on devient familier, c'est très bien, c'est magnifique, mais il peut y avoir aussi des inconvénients. Le téléphone, c'est très bien, c'est magnifique, mais il y a des inconvénients. Allô, où t'es? C'est terrible. Eh bien, quand on est familier, il y a aussi des inconvénients, des avantages, des inconvénients. Quand on est familier, on a tendance à parler autrement que dans la vie normale. Quand vous allez, par exemple, chez notre chère Madame Cormier, notre boulangère dans le village, est-ce que vous lui parlez sur le même ton que vous parlez à vos frères et sœurs? Eh bien, non. On arrive chez Madame Cormier, on dit « Bonjour madame, comment ça va ?» Ah oui, allez. Vous avez remarqué, vous ne dites pas « Passe-moi le pain là-bas !» Ben, trop souvent, j'entends qu'il y en a qui se parlent comme ça dans la communauté. Vous devriez parler, sinon à un frère, à une sœur habité par le Seigneur Jésus, vous devriez, si vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas assez spirituel, au moins penser que c'est peut-être Madame Cormier à qui vous parlez, quand vous parlez à votre frère, à votre sœur. C'est-à-dire, avec gentillesse. Ça ne vous gercera pas les lèvres, ni le cœur. Parlez avec gentillesse. Dites pas les choses brusquement. Dites les choses sur un ton agréable. On peut dire les mêmes choses, et de meilleurs résultats quand on dit des choses d'une façon gentille. Alors, je pose la question. Est-ce que vous êtes des croyants? Bien sûr que vous êtes des croyants. Donc, si vous êtes des croyants, vous croyez pas seulement en Dieu, mais vous croyez Dieu. Vous croyez que Dieu a raison. Alors Dieu, il dit, il n'est pas bon que le glébeux soit seul. Ça peut être pénible parfois de ne pas être seul. Mais c'est mieux que d'être seul parce que Dieu dit que ce n'est pas bon d'être seul. Alors si vous êtes dans un moment où vous vous plaignez des uns, des autres, de ceci, de celui-ci, de celle-là et tout, rappelez-vous, vous êtes des croyants, alors croyez Dieu. Ben, il vaut mieux que ça soit un petit peu pénible, mais c'est quand même meilleur que d'être seul. Rappelez-vous de ça, croyez Dieu, croyez ce que Dieu dit. Il n'est pas bon pour le glébeux ou la glébeuse d'être seul. Croyez cela et vivez cela. Amen. Merci Jésus pour ce message. Merci mon Dieu de nous donner une éducation, pas simplement une instruction, mais une éducation pour que nous nous comportions d'une façon qui te glorifie et qui ne soit pas autrement que ce que tu attends de nous. Merci Jésus de nous aider chacun et chacune afin que nous puissions maintenir cet état d'esprit dans notre communauté tel que c'était au début. Merci Jésus de nous avoir soutenus depuis 1977 et nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Jésus, tu reviens bientôt. Nous ne voulons pas perdre tout pour des bêtises et des broutilles. Nous voulons être corrects, sachant que ton nom est dans chacun de nos frères et chacune de nos sœurs, et que nous devons y prendre garde. Amen.
Porte dans mon cœur, Jésus-Christ, le Seigneur, et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour, d'amour. Sa force, son courage, apaise les orages. l'âme.